Vous êtes sur RTL.
RTL Soir, Thomas Soto, bonsoir Thomas.
Bonsoir Isabelle et bonsoir à tous, bienvenue dans RTL Soir. Un vaccin anti-Covid, peut-être. C'est le laboratoire américain Pfizer qui affirme avoir trouvé la formule magique, efficace dans 90% des cas. Mais attention, attention, les essais ne sont pas terminés. Alors c'est certes encourageant, comme le dit l'OMS, l'Organisation Mondiale de la Santé, mais il ne faut pas s'emballer, même si c'est vrai qu'on a envie d'y croire. Je ne sais pas si ceci a quelque chose à voir avec cela, mais cet après-midi, on a aussi appris, grâce à la Poste, que les enfants avaient jusqu'au 15 décembre pour écrire au Père Noël, en tout cas pour ceux qui veulent avoir une réponse, avec, qui sait, peut-être un petit vaccin dedans. Amandine Bégaud, bonsoir.
Bonsoir Thomas, bonsoir à tous. Les grands aussi peuvent écrire au Père Noël.
Mais je sais que vous avez fait votre lettre. On découvre avec vous les autres grands titres de l'actualité de ce lundi 9 novembre.
Et vaccin ou pas, une chose est sûre, le premier confinement a bien eu un impact sur le niveau scolaire de nos enfants. L'Éducation nationale a dévoilé tout à l'heure le résultat des évaluations faites à la rentrée. Dans ce journal également, un marché de Noël 100% Covid compatible. Et oui, c'est possible. Et puis la Ligue 1 à 18 clubs, c'est un vieux serpent de mer. Et bien c'est peut-être pour bientôt. Didier Deschamps, en tout cas, est pour. Les courses, le Quintet Plus se courait aujourd'hui à Angers. Il fallait jouer le 12, le 11, le 4, l'As et le 3.
Deux invités, trois invités même, dans l'heure qui vient. Nicolas Dupont-Aignan à 18h15 sera l'invité d'actualité de RTL Soir. Et puis à 18h40, Marie Drucker et Isabelle Weckstein, productrice et réalisatrice du documentaire Quand l'hôpital retient son souffle. C'est une petite pépite à voir demain soir à 20h50 sur France 5. La météo ?
Oui.
Et ben voilà, on parle du Père Noël et voilà le Père Fouettoir. Louis Baudin, demain, retour des nuages. Qu'est-ce qu'ils vont y voir les rennes là-dedans ?
Oui, c'est vrai, ils vont avoir du mal. Bon, ces nuages ne seront pas très denses non plus, pas très actifs. Comme ça, ils pourront passer entre les nuages où on aura quand même quelques éclaircies. Alors, c'est une petite perturbation qui va glisser vers l'est, mais elle n'est pas très puissante, pas très active. Donc, elle donnera que quelques pluies ici ou là, pas de grosses quantités, notamment dans les régions allant des Pyrénées jusqu'à la Lorraine, en passant par la région Champagne-Ardenne ou encore le centre. Dans l'ouest, on trouvera quelques éclaircies, mais avec quelques averses. Plus de soleil en revanche entre les Alpes et l'Alsace, une nouvelle fois, ou encore tout près de la Méditerranée. Et puis les températures baisseront un peu, mais resteront quand même largement de saison. Avec l'après-midi, 9 à 13 degrés dans le nord-est. On sera entre 14 et 16 degrés dans les autres régions de la moitié nord et 17 à 21 dans le sud.
Vous êtes quand même le père mignon alors.
Ah, ben merci.
RTL Soir.
Plus 5,6% à l'ouverture tout à l'heure à New York, plus 7,57% à la fermeture ce soir à Paris. Voilà longtemps que les marchés financiers n'avaient pas enregistré de telles performances. Clairement, l'annonce du laboratoire Pfizer semble leur avoir redonné des couleurs, à tort ou à raison. Ça, c'est l'avenir qui nous le dira. Bonsoir Odile Pouget.
Bonsoir.
Il faut bien sûr rester prudent ce soir. Le laboratoire américain annonce avoir donc mis au point un vaccin contre le Covid fiable à 90%. 90%, c'est énorme.
C'est en tout cas très encourageant. Alors pour bien comprendre ce chiffre, il faut retracer le déroulé de cet essai clinique dans sa dernière phase, qu'on appelle la phase 3. Plus de 38 000 volontaires ont reçu deux injections à un mois d'intervalle. La moitié a eu un placebo, l'autre le vaccin. Tous ont été soumis ensuite à un test PCR 7 jours après la deuxième dose. Et à ce moment-là, les médecins ont constaté que 94 participants étaient positifs. Ce qui permet à Pfizer de dire que son candidat vaccin est très efficace, c'est que sur ces 94 malades, 84 avaient reçu un placebo, donc n'étaient pas protégés. Et parmi les personnes vaccinées, il y en avait beaucoup moins. 10 seulement sont tombés malades.
Bon, mais Odile, si les bons résultats dont vous nous parlez se confirment, quand est-ce qu'on peut imaginer être vacciné ? Pas demain, j'imagine.
Non, en effet, le laboratoire américain doit encore confirmer ses résultats. Résultats sur 6000 autres participants attendus. La semaine prochaine, il doit ensuite publier un compte-rendu des effets secondaires du vaccin. Après, il faut le feu vert de la FDA, l'agence de santé américaine, puis celui des autorités de santé européennes. Autant dire qu'on n'y est pas encore, d'autant que pour ce vaccin, il va se poser tout de même un problème de logistique. Il faut en effet le conserver à moins 80 degrés. Il faudra donc le stocker dans les hôpitaux ou dans des centres spécialisés.
Effectivement, ça va demander une certaine logistique. Merci beaucoup Odile. Odile Pouget, spécialiste santé ici à RTL. Les réactions en tout cas sont nombreuses ce soir après cette annonce. Le patron de l'OMS, l'Organisation Mondiale de la Santé, salue une annonce encourageante. Aux États-Unis, Joe Biden évoque un espoir quand Donald Trump parle lui d'une excellente nouvelle. Bonsoir Philippe Corbet.
Bonsoir.
Ça c'est pour la version officielle. officielle parce qu'en coulisses, le président sortant semble beaucoup moins satisfait.
Oui, Donald Trump a promis pendant des mois en campagne qu'il y aurait un vaccin avant son élection. Pfizer avait tempéré ses attentes. Donc des proches du président enfourchent déjà une théorie complotiste. Voici ce que disent certains d'entre eux, je les cite. C'est drôle de voir que Pfizer a attendu juste après l'élection pour faire cette annonce. Les médias mentent une nouvelle fois quand ils prétendent que ce progrès sur le vaccin vient juste d'arriver, que Trump n'a rien à voir avec ça. Un autre ami du président ne veut pas croire non plus que c'est une coïncidence si l'annonce vient juste après l'élection. C'est la preuve selon lui que c'est l'action du président qui a été déterminante, ce que Donald Trump avait baptisé Operation Warp Speed, opération vitesse de l'éclair. Alors c'est vrai que ce plan Trump a promis à Pfizer plus de 2 milliards de dollars pour livrer 100 millions de doses au gouvernement fédéral, mais Pfizer, depuis le départ, a gardé ses distances avec cette opération politique de la Maison-Blanche et rappelle que le laboratoire n'a pas touché d'argent fédéral pour financer la recherche et le développement. Par ailleurs, Katherine Johnson, qui supervise la recherche sur le vaccin chez Pfizer, dit qu'elle n'a pris connaissance de ces derniers résultats encourageants que hier à 19h hors de Paris, donc 24 heures après la confirmation de l'élection de Joe Biden.
Philippe Corbet à New York pour RTL à propos de ce projet de vaccin bien avancé, qui est une coproduction d'ailleurs entre Pfizer l'américain et des laboratoires allemands. On s'en doutait, c'est ce soir confirmé, le confinement du printemps, Amandine, a eu un mauvais impact sur le niveau scolaire de nos enfants.
Le ministère de l'Éducation nationale a présenté tout à l'heure le résultat des tests d'évaluation réalisés à la rentrée en septembre par les élèves de CP, CE1 et 6e. Marie Guerrier, en CP et en CE1, c'est simple, ça baisse partout ou presque.
Oui, que les élèves soient dans le public ou le privé, en CP, la maîtrise du français et des maths est en légère baisse. Les compétences qui manquent le plus aux enfants sont celles qui auraient dû être acquises en fin de grande section, au moment du confinement, donc manipuler les syllabes, résoudre des problèmes. En CE1, la baisse est sensible en français. Là aussi, ce qui est travaillé habituellement en fin de CP a été affecté par le confinement, la lecture à haute voix et l'écriture de mots. En maths, en revanche, les résultats sont stables par rapport à l'an dernier. Les enfants des milieux les plus défavorisés ont davantage pâti du confinement. Les écarts de niveau ont augmenté entre les élèves en éducation prioritaire et ceux qui n'y sont pas. S'ils s'étaient pourtant réduits l'an dernier, sous l'effet, disait le ministère, des CP dédoublés en REP et REP+, mais avec le confinement, eh bien on est revenu aux écarts qui existaient avant le dispositif de dédoublement.
Et pour les 6e, Marie ?
Eh bien là, les résultats sont meilleurs que l'an dernier. Les évaluations portent en fait sur l'ensemble des connaissances acquises à l'école primaire, pas seulement sur ce qui a été vu en fin d'année dernière. Le ministère estime que les efforts portés sur l'apprentissage des fondamentaux depuis 3 ans commencent à payer, mais il reste 2 points noirs. Les maths, avec plus d'un quart des élèves en grande difficulté en 6e, et la lecture, la moitié seulement des 6e lisent de manière fluide, 15% ont un niveau de CE2.
La moitié seulement lisent normalement correctement.
53% ont une fluence satisfaisante.
Marie Guerrier, spécialiste des questions d'éducation et CRTL. Et puisqu'on parlait d'école, les établissements scolaires où plusieurs syndicats appellent à une grève demain, grève sanitaire pour réclamer un protocole plus strict. Attention donc, certaines écoles pourraient carrément être fermées. C'est le cas notamment dans certains établissements parisiens.
Une crise sanitaire qui a bien sûr, et on le constate tous les jours, un impact économique. Ce matin sur RTL, le gouverneur de la Banque de France tablait sur un PIB en baisse de 9 à 10% pour l'année 2020. Pour faire face, certains tentent de s'adapter. Illustration ce soir avec le marché de Noël d'Amiens. Il aura bien lieu cette année, Gauthier de Lombugard, confinement ou pas, mais ce sera sur le net, un marché de Noël 100% virtuel.
Oui, les internautes vont pouvoir flâner dans les allées entre les chalets et accéder aux produits vendus habituellement sur les marchés de Noël, bijoux, vêtements, restauration. Nicolas, un prof de maths, et ses deux frères amiénois sont à l'origine du projet.
L'objectif est bien entendu de permettre aux artisans, aux commerçants, d'avoir un chalet, puisqu'ils vont un chalet attitré où ils pourront proposer leurs produits à l'intérieur de ce chalet. Les gens pourront défiler dans ce chalet. Ils pourront soit décider d'aller sur le chalet suivant ou alors de cliquer sur un des articles qui les intéresse. L'idée, c'est vraiment une balade numérique, j'ai envie de dire.
Les forfaits vont de 75 à 180 euros pour l'installation d'un chalet, bien moins cher que pour un marché de Noël traditionnel. Une centaine de commerçants locaux se sont déjà inscrits. Céline crée des accessoires de mode en tissu dans la campagne amiénoise.
Tous les marchés de Noël auxquels j'étais inscrite, c'est-à-dire 5 marchés, ont été malheureusement annulés. C'est une belle initiative pour nous, les créateurs, les artisans et les commerçants locaux. Ça permet de faire tout de même un marché de Noël et je trouve qu'en cette période difficile, c'est important de trouver des idées positives.
Les trois frères Picard à l'origine du projet pensent désormais ajouter de la musique sur leur plateforme, de quoi se rapprocher un peu plus de la magie de Noël, même à travers un écran.
Bon, le vin chaud à distance, c'est pas terrible. Hein.
Bon, après les goûts, les couleurs, hein, ouais. Même en vrai. Gauthier de Lombugard, donc pour ce reportage sur ce marché de Noël virtuel du côté d'Amiens. Une crise sanitaire, en tout cas, qui a pesé aujourd'hui sur le cinquantenaire de la mort du général de Gaulle. Et on en parle tout de suite.
Thomas Sauto, RTL Soir.
RTL Soir, Thomas Sauto.
18h11, la suite du journal avec vous, Amandine Bégaud. Et en ce 9 novembre 2020, détour obligé par Colombey les deux églises, le fief du général de Gaulle.
Là aussi qu'il s'est éteint hein, il y a 50 ans, jour pour jour. Une cérémonie était organisée sur place aujourd'hui en présence d'Emmanuel Macron. Cérémonie restreinte, Vincent de Rosier, pour cause de crise sanitaire.
Oui, du soleil, un grand ciel bleu, mais un village totalement désert. Dans les rues, des gendarmes, quelques élus et une poignée d'habitants priés de rester à distance et forcément très déçus.
Il aurait fallu une exception. C'est quand même les 50 ans de la mort du général de Gaulle, donc c'est important. On ne peut pas, donc on va respecter les règles et puis rester chez nous.
Pas de discours présidentiel. Emmanuel Macron déjeune avec les petits-enfants du général. Puis, il visite la boisserie avant de déposer une gerbe sur la tombe blanche du général. Et pour le député Les Républicains de Haute-Marne, François Cornu-Gentil, cette journée ne rend pas hommage à l'esprit du général de Gaulle.
Le rassemblement d'élus a quelque chose de pas très gaulliste. De Gaulle, c'est le peuple. Et l'absence du peuple, moi, je la ressens assez fortement.
Le chef de l'État, lui, a terminé la journée par la traditionnelle cérémonie militaire devant la Croix de Lorraine, avec un survol des Alpha Jets de la patrouille de France. Un peu de couleur et de bruit dans le ciel pour réveiller les 700 habitants du village de Colombey-les-Deux-Églises.
Vincent de Rosier à Colombey-les-Deux-Églises. Donc pour RTL, cette séquence mémorielle va se poursuivre pour le chef de l'État avec mercredi les cérémonies du 11 novembre et puis l'entrée au Panthéon de Maurice Genevoix.
Le foot et l'hypothèse d'une Ligue 1 à 18 ressurgit.
L'idée ça bien 2 semaines.
Ben oui. Non, vous exagérez. Bon, ben voilà, je me tais. Non, allez, l'idée a été relancée hier par Vincent Labrune, le nouveau patron de la Ligue de foot professionnelle, qui va pouvoir s'appuyer sur un soutien de taille, Nicolas Georgerot, celui de Didier Deschamps.
Oui, le sélectionneur, dans le sillage de Vincent Labrune, c'est sans ambiguïté, c'est assumé.
L'élite, plus elle est resserrée, mieux c'est-à-dire en passant à 18 clubs, ça va dans le sens de l'élite. Dans les 20 clubs français aujourd'hui, il y en a une dizaine qui peuvent se sentir concernés, donc qui peuvent descendre, donc voilà, c'est tirer le foot français vers le haut. En disant ça, je sais que je ne vais pas me faire que des amis. La Ligue 1 doit aller dans ce sens-là.
Une Ligue 1 à 18, entrevue la dernière fois entre 97 et 2002, Deschamps a connu ce format lorsqu'il entraînait l'AS Monaco, une réforme, si elle se met en place, qui arrangerait le sélectionneur qu'il est devenu, vu l'embouteillage des calendriers. C'est une révolution plus large sans doute à venir, avec dans les cartons la transformation de la gouvernance du foot professionnel, une société commerciale pour gérer directement les revenus, les droits télé, les ressources de la Ligue 1. On va encore enrichir les plus riches, disent les détracteurs de cette formule. Une condition sine qua non pour les autres afin d'être compétitif au plus haut niveau.
Merci Nicolas. Nicolas Georgerot du service des sports de RTL.
Et vous parlez pas du tout du Paris FC là ? Premier Ligue 2, 25 points sur 30 possibles, 7 points d'avance sur le suivant.
On peut, c'est vrai.
Attendez,
magnifique début de saison.
Ah, merci.
Bon, on peut parler du Vendée Globe ou pas ? Bon, avec cette première journée en mer, la première vraie pour les marins et au dernier classement, celui de 15h, c'est Damien Seguin, premier marin handisport à participer à cette course, qui est en tête hein, devant Maxime Sorel et Jean Le Cam. Fabrice Amédéo.
Vous avez un expert là. Hein.
Mais oui, je sais, ouais. Mais justement, est toujours au Sable d'Olonne après avoir fait demi-tour. Il répare une avarie, Louis Baudin. Il devrait pouvoir reprendre la mer demain. C'est quoi son problème ?
Oui, c'est ça. C'est en fait ce qui tient la voile tout en haut du mât. Cette petite pièce là qui est fondamentale à casser. Mmh. Et donc il faut la réparer, mais ça veut dire qu'il faut faire des travaux aussi sur le mât et ça prend un peu plus de temps que prévu.
Et ils peuvent comme ça rentrer puis repartir. Ils perdent juste du temps.
Point de départ. Il ne peut pas s'arrêter.
Donc il est encore dans la course.
Là, il est encore dans la course.
Il est fort bon. Hein. Il fait la météo, il fait la voile. Demain, on va tester sur l'horoscope.
La voile, j'en ai fait pendant 15 ans, donc c'est aussi un peu mon milieu.
Voilà, vous avez compris ? Merci. Merci beaucoup Amandine, merci Louis et à tout à l'heure. Il revendique son gaullisme et dénonce une période pétainiste, ce qui mérite quelques éclaircissements. Nicolas Dupont-Aignan, patron de Debout la France et député de l'Essonne, est l'invité d'actualité d'RTL Soir et c'est tout de suite.
Thomas Sauto, RTL Soir.